Les archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
En Tunisie, le président Ben Ali a annoncé une prochaine modification de la constitution, ceci afin de permettre à l'opposition de présenter des candidats à la prochaine présidentielle. Selon cette modification, les chefs des partis légaux pourront postuler à l'élection, à condition toutefois qu'ils soient à la tête de leur parti depuis au moins 5 ans. Mais le MDS, mouvement des démocrates socialistes, n'est pas du tout convaincu par cette réforme. Écoutez Maître Mohamed Kalfala, coordonnateur du MDS, il est au micro de Mouna Albana.
Cette initiative me laisse vraiment complètement pantois. Car ce projet, en fait, si on analyse bien, n'ouvre le champ à la présentation des candidatures de la République qu'à 5 personnalités, pour une population de 9 millions d'habitants et un peu plus de 5 millions d'électeurs. Parce que les partis politiques légaux sont au nombre de 6, et l'MDS, qui est dont je suis le coordinateur et auquel on fait des difficultés, ni celui qui a usurpé la présidence de ce parti, ni moi-même n'avons l'ancienneté requise qui a été annoncée de 5 ans.
Ah, donc le MDS est de toute manière...
Éliminé de la course. Mais le véritable problème, il tient à la crédibilité même des candidatures. Il se trouve que ces 5 premiers responsables des partis d'opposition, qui sont maintenant désignés, ont apporté un soutien inconditionnel au président de la République.
Si les différents leaders politiques manifestent leur scepticisme quant à la sincérité et au sérieux de la modification proposée qui permet d'envisager une élection présidentielle pluraliste, c'est parce que depuis son arrivée à la tête de l'État, à la suite du renversement de Habib Bourguiba, 11 ans plus tôt, les scrutins qu'il a organisés étaient tous biaisés. Ils étaient faits pour renforcer son pouvoir. Et celui qui s'annonce en cette année 1999 arrive dans un contexte particulier, avec un Zine El Abidine Ben Ali qui contrôle tout et règne sur la Tunisie presque comme un monarque. La présidentielle annoncée ressemble plus à une formalité qu'à une véritable compétition politique. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Zine El Abidine Ben Ali. Après 11 ans à la tête de la Tunisie, Zine El Abidine Ben Ali contrôle les rouages de son pays. Les islamistes ont été matés, la plupart de ses leaders sont en exil. Et le pays qui vit sous un régime policier, avec des oreilles partout, affiche une relative prospérité économique.
Il faut encourager des processus qui permettent des progrès réels dans des situations réelles à un moment donné. D'où une attitude à la fois d'accueil, d'amitié, de respect, d'ouverture et d'encouragement, précisément à partir d'une situation qui a été très, je crois, consolidée ces dernières années sur le plan du risque intégriste et d'autre part de l'économie et qui devrait permettre à la Tunisie maintenant de franchir de nouvelles étapes. Ou adopter par rapport à un certain nombre de pays qui nous sont proches mais dans lesquels la situation politique n'est pas encore ce que nous pourrions complètement souhaiter, une attitude à la fois d'amitié, de compréhension, d'encouragement, d'incitation et faire entrer des pays qui sont confrontés à des problèmes sérieux. Il ne faut pas traiter avec des désinvolture depuis chez nous. Il faut les faire entrer dans des processus positifs, encourageants et constructeurs.
Pour la communauté internationale, la Tunisie est un pays stable. Ce qui explique, entre autres, l'afflux des touristes étrangers, notamment occidentaux, sur les plages de rêve de Hammamet, Sousse et autres monastères. À Tunis, s'élèvent de nombreuses firmes et banques internationales. On parle de la Tunisie comme le Singapour de l'Afrique, avec une croissance moyenne de 6%. Bref, le pays affiche un beau visage. Le niveau de vie a considérablement augmenté. Le Tunisien moyen possède désormais une maison et une voiture. Et la formation est de qualité. On vit dans un pays ouvert sur un modèle économique libéral. Une façade qui séduit aussi les subsahariens, qui désormais y envoient même leurs étudiants boursiers. Un trompe-l'œil que dénonce Patrick Baudot, le président de la Ligue des droits de l'homme.
La Tunisie, pour le touriste français ou européen, est un pays où il fait bon vivre. Un pays où le peuple tunisien vous accueille bien, car les Tunisiens sont des gens extrêmement chaleureux et sympathiques. Mais justement, si l'on veut venir en aide aux Tunisiens eux-mêmes, il faut savoir ce qui s'y passe et il faut avoir le courage parfois de le dénoncer. Et je pense même qu'au niveau des agences de voyage, des moyens de communication considérables qu'utilisent les autorités tunisiennes pour vanter l'image de marque de leur pays, il faut rétablir aussi un certain équilibre. La Tunisie, ce n'est pas seulement l'image du plaisir de vivre du touriste étranger. C'est aussi le pays où l'on viole les droits de l'homme, où l'on pratique les mauvais traitements, le non-respect des libertés essentielles. Et à travers les contacts qu'il peut y avoir entre les Tunisiens et les visiteurs étrangers, s'il y a une meilleure connaissance réciproque, je pense que cela peut aller aussi dans un sens favorable à l'évolution des libertés dans ce pays.
Shafi Shahed, ancien ministre et biographe de Bourguiba.
Avec la globalisation, la Tunisie s'est ouverte à l'argent, aux contrats, aux prêts, aux transferts de capitaux et au blanchiment d'argent. De grandes quantités d'argent provenaient d'Irak ainsi que de l'Algérie, alors en pleine guerre civile. C'est l'argent des généraux et des contrebandiers. Des sommes énormes sont arrivées de Libye, que ce soit de l'argent d'État ou de l'argent sale.
Le régime Ben Ali bénéficie du soutien des États-Unis, de la France et de l'Italie notamment, parce qu'il abrite une base arrière de la CIA et de l'OTAN, servant aux opérations antiterroristes régionales et au contrôle de la Méditerranée. Mais l'un des plus grands reproches que l'on fait à cet Eldorado des hommes d'affaires de tout poil est le niveau de corruption dans le pays. Ici, la famille du président est impliquée dans tout ce qui se fait comme business. Elle truste tout. L'épouse Leila est aux commandes. La famille, qui se sent couverte d'une certaine immunité, fonctionne comme une vraie mafia. Slim Baga, journaliste spécialiste de la lutte contre la corruption.
Dans les années 90, l'exemple dont je me rappelle aujourd'hui concerne Auchan, les supermarchés français. Ils voulaient s'implanter en Tunisie et ouvrir des magasins, ce qui aurait pu créer 6000 emplois. Les familles Trabelsi et Chibout se disputaient les pots de vin que cela impliquait, chacun essayant de grappiller jusqu'à ce que le président d'Auchan s'enlace et dise enfin « Je n'investirai pas dans une république bananière ». Il est parti et a ouvert son centre commercial au Maroc et les emplois furent créés là-bas.
La dite république bananière attire de nombreux capitaux pourtant. Et elle bénéficie du regard bienveillant des grandes nations. C'est certainement pour faire taire la critique de certains droits de l'homiste qui de plus en plus dénoncent le manque de liberté dans le pays que le président Ben Ali décide donc pour les élections présidentielles de 1999 d'élargir, d'ouvrir, de permettre la participation de plusieurs autres candidats. C'est la première élection pluraliste dans l'histoire du pays. Le chef de l'État veut officiellement qu'elle représente le processus irréversible de démocratisation tunisienne.
En Tunisie, le président Ben Ali a annoncé une prochaine modification de la Constitution, ceci afin de permettre à l'opposition de présenter des candidats à la prochaine présidentielle. Selon cette modification, les chefs des partis légaux pourront postuler à l'élection, à condition toutefois qu'ils soient à la tête de leur parti depuis au moins 5 ans. Mais le MDS, mouvement des démocrates socialistes, n'est pas du tout convaincu par cette réforme.
Cette modification pour cette élection, qui logiquement devrait être la dernière pour Ben Ali, selon le texte qu'il a fait adopter en 1988, abolissant la présidence à vie pour un maximum de 3 mandats, ne semble pas vraiment convaincre les 2 autres candidats qui ont décidé de l'affronter. D'abord, Abderrahmane Lili.
C'est bon pour une raison très simple. C'est que d'abord, c'est pour la première fois. Et vous savez, c'est comme tout ce qui est historique. Au début, on ne se rend pas compte de la portée. Mais là, c'est une portée historique parce qu'en fin de compte, on brise un mur de glace parce que la Tunisie, depuis l'indépendance, a vécu sur le parti unique, en date unique, pensée unique, etc., tout unique. Maintenant, on en arrive à la phase où il n'y a plus un seul candidat aux élections présidentielles, ce qui fait que pendant les prochaines 5 années à venir, il est évident que nous sommes appelés à parachever ce processus. Processus démocratique, selon 2004, la Tunisie, nous le souhaitons, nous l'espérons, sera un pays totalement démocratique. C'est pour cette raison, et uniquement pour cette raison, que je m'engage. Nous voulons contribuer à ce que la Tunisie soit à l'heure du monde.
Pour Mohamed Bella Jamor, le troisième candidat à cette présidentielle, il s'agit également d'une démarche symbolique, sans grande prétention.
Si je rentre dans la compétition, c'est parce que c'est une date historique qui va marquer la Tunisie. Pour la première fois, il y a des présidentielles pluralistes.
Dans le camp du président Ben Ali, aucune inquiétude, comme le fait remarquer Mme Nadia Zarouk, la ministre de la Famille et de la Femme, membre du bureau politique du RCD que préside le chef de l'État.
Ce sont quand même 2 candidats concurrents au président Ben Ali. Donc ils ont choisi délibérément d'être candidats et ils mènent leur campagne donc dans la démocratie la plus absolue, dans la liberté la plus absolue. Et les urnes vont certainement témoigner du gagnant. Le chef de l'État qui sera majoritaire des voix, ça sera Ben Ali.
Rachid Ghannouchi, le leader islamiste en exil.
Le fait de prendre part à des élections avec une liste unique et d'imposer des quotas avant les élections n'était guère que du théâtre politique. Ahmed Mestiri a eu raison de refuser d'y prendre part, parce que c'était complètement antidémocratique. La démocratie signifie une compétition réelle.
Nadia Zarouk, du bureau politique du RCD, le parti au pouvoir.
Le pluralisme, je crois que quand la révision du code électoral a permis, de prime abord, à l'opposition de profiter de 20% du nombre des sièges. Je crois qu'il n'est pas très commun dans les lois électorales, et les partis au pouvoir essaient toujours de réformer le code électoral pour consolider leur place, consolider leur siège, et leur céder donc à choisir avec la conviction du président Ben Ali pour impulser le pluralisme et impulser la démocratie à l'enceinte du Parlement. Il a déjà de prime abord donné à l'opposition 20% des sièges. Et je crois que même les 20% seront, avec les résultats obtenus, seront un don du parti au pouvoir à l'opposition. Vous allez vous-même le constater.
Le 24 octobre 1999, le président Ben Ali est réélu avec le traditionnel score soviétique de 99,45% contre 0,31% pour Bella Djamor et 0,23% pour Mohamed Lili.
En Tunisie, on l'appelait le combattant suprême. Habib Bourguiba est mort ce matin à 96 ans dans sa résidence de Monastir. Il a été l'homme de la décolonisation mais aussi de la modernisation de son pays. Une période de deuil de 7 jours a été décrétée. Ses obsèques se dérouleront samedi et Jacques Chirac y assistera. Hervé Guéquière.
Le jour de gloire du combattant suprême. Il a milité plus de 20 ans pour la cause nationaliste, passé 10 ans au total en déportation ou dans les prisons françaises. Ce retour triomphal d'Habib Bourguiba va sonner l'heure de l'indépendance. La Tunisie, libérée de l'Empire ottoman, a vécu trois quarts de siècle sous protectorat français. Bourguiba va incarner la nation. Il construit un état-providence, il s'attaque à tous les archaïsmes, il mène une guerre implacable contre le sous-développement. Il est le seul chef d'État musulman à imposer l'égalité juridique entre hommes et femmes. Le voile n'est plus une contrainte pour la Tunisienne. La polygamie et la répudiation sont interdites.
Certains fonctionnaires, certains gros capitalistes trouvent que c'est un peu trop vite, n'est-ce pas, que Bourguiba n'est pas... Hein? Il ne faut pas oublier que si on va trop lentement, on recule.
Habib Bourguiba, très respecté de ses voisins arabes, propose le premier, par réalisme politique, de négocier avec l'État d'Israël. Cela n'empêche pas Bourguiba d'avoir d'excellentes relations avec les Palestiniens. C'est d'ailleurs la Tunisie, en 1982, qui recueille l'OLP lorsque celle-ci est chassée du Liban par Israël et la Syrie, au risque de représailles de la part de l'État juif. Mais dans les années 80, les Tunisiens veulent s'émanciper du paternalisme de Bourguiba et en finir avec la corruption et la répression. Les émeutes du pain feront une centaine de morts et des centaines de blessés. Le combattant suprême vieillit, il est malade, imprévisible. En Tunisie, les islamistes gagnent du terrain. En novembre 1987, le général Ben Ali écarte Bourguiba du pouvoir pour incapacité physique. Ben Ali devient président, alliant autoritarisme et ouverture économique. Bourguiba restera dans toutes les mémoires le père de la nation tunisienne.
Le vieux combattant suprême qui vivait désormais enfermé dans son palais depuis plusieurs années, à l'abri des regards, et à qui Ben Ali avait rendu une visite quelque temps plus tôt, est mort 11 ans après sa chute. Mais son décès va très insidieusement susciter quelques comparaisons sur le fond. Si Ben Ali est conforté sur le plan électoral, dans le pays commence à se manifester une certaine opposition. Non pas à travers les partis, mais surtout par la société civile qui dénonce l'absence de liberté, mais également la répression qui frappe les militants des droits de l'homme qui désormais font entendre leur voix à l'extérieur. Un autre personnage, une autre grande figure qui va rompre le silence pour partir en dissidence est le docteur Mahamat Talbi, considéré comme l'un des fondateurs de l'université de Tunisie. Il va écrire un article au vitriol contre le président Ben Ali publié dans le célèbre Arabic Magazine.
C'est lui qui impose la censure à l'encontre de l'université et de la pensée.
Le docteur Talbi va devenir le fondateur du Conseil national des libertés qui va produire un violent rapport sur les libertés et la torture en Tunisie. Document qui va avoir un fort retentissement.
Il était le principal responsable des arrestations et des procès, mais les politiciens adoptèrent ces méthodes. Donc ce n'était pas flagrant. Les gens associent les arrestations de la révolte du pain des Dinoïra en 1978 avec Mzali. Ils n'en savent pas plus. Pour eux, il s'agissait de soldats obéissant aux ordres.
Ce rapport est écrit par quelques personnages marquants, dont un certain journaliste Taoufik Ben Brik, qui va progressivement devenir l'une des figures marquantes de l'opposition à ce régime. Le 3 avril 2000, Taoufik Ben Brik décide de commencer une grève de la faim pour dénoncer les restrictions dont fait l'objet son passeport et les atteintes à sa vie privée.
D'abord, les Tunisiens maintenant usent de l'arme de la grève de la faim à bon escient. Autrefois, ils l'utilisent pour protester. Maintenant, non, c'est pour faire plier l'ogre. L'autre grande victoire, c'est que je ne crois pas qu'il y ait un dictateur qui a eu une aussi grande et cruelle campagne médiatique. Pendant 4 mois, ça n'arrête pas. Dans toutes les langues.
Cette grève de la faim, qui correspond à la période même des obsèques du vieux combattant suprême Bourguiba, avec sa famille totalement ignorée, va avoir un grand retentissement sur le plan international. Rachid Kachana, journaliste tunisien.
Cette année-là, en 1999, avec la mort de Bourguiba, la société tunisienne a commencé à reprendre ses esprits, particulièrement avec la grève de la faim de Taoufik Ben Brik, avec les coups de feu reçus par le journaliste Riyad Ben Fadel, puis avec le Congrès national pour les libertés de juillet 2000.
La grève de la faim de Taoufik Ben Brik fait mouche. Il obtient l'autorisation de quitter le pays. Il vient à Paris. Il est sur tous les médias. Il fait un passage dans l'émission Médias d'Afrique que j'avais l'honneur d'animer à cette période-là.
Les démocrates tunisiens, les droits de l'homme, les féministes, oui, ça aurait pu changer parce que pendant ma grève de la faim, ces gens-là, ils étaient ensemble. On a fait front. S'ils n'étaient pas ensemble, moi je crois que je n'aurais jamais pu réussir ce mouvement. Ce n'est pas moi qui a réussi, c'est eux. Moi j'étais carrément cloîtré, bon à perdre des kilos. Il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir. Lorsqu'on voit aussi que les Tunisiens de l'exil se mobilisent pour des islamistes, il y a de l'espoir. Lorsque aussi l'opinion des pays qui sont au pourtour de la Tunisie a changé, il y a de l'espoir.
C'est vrai que désormais les voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer le régime policier de Ben Ali. Que la Tunisie, destination de prédilection des touristes européens, et notamment français, allemands et espagnols, fait de plus en plus l'objet de critiques des organisations des droits de l'homme et de la presse. Mais cela ne semble pas vraiment inquiéter tant que cela le président Ben Ali, qui décide même de modifier la constitution en 2002 en amendant la moitié des articles. Ben Ali dit vouloir faire évoluer le système politique vers une république plus moderne, qu'il appelle la république de demain. Au passage, la réforme supprime la limite des mandats présidentiels introduite en 1988. Elle allonge également l'âge maximal pour se porter candidat à 75 ans. Les Tunisiens sont invités à voter par référendum pour adopter cette nouvelle constitution.
Depuis ce matin, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour se prononcer par référendum sur une réforme de la constitution. Des amendements qui permettront au président Ben Ali de prolonger son pouvoir. Le oui devrait largement l'emporter. Un référendum boycotté par les partis d'opposition qui dénoncent le règne autoritaire du président tunisien. Le reportage de nos envoyés spéciaux Régis Nussbaum, Hervé Dino.
L'association tunisienne des femmes démocrates, un petit appartement au centre de la capitale. C'est le seul endroit où peuvent encore se réunir les opposants au président Ben Ali. Interdite de télévision, ignorée par les journaux et privée de tout affichage public, l'opposition appelle au boycott du référendum, un processus électoral contrôlé dans les moindres détails jusqu'au bureau de vote. Et le résultat ne fait guère de doute, un oui massif en faveur d'un quatrième mandat pour le président Ben Ali.
Cette nouvelle constitution permettra-t-elle au président Ben Ali d'être réélu pour un quatrième mandat pour la présidentielle de 2004 qui approche? Parviendra-t-il à se faire reconduire avec cette opposition muselée, certes, mais très active, qui s'organise? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Zine El Abidine Ben Ali, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Quinze ans après son accession à la tête de la Tunisie, le président Zine El Abidine Ben Ali organise un référendum pour réviser la constitution. Il s'agit, selon lui, de faire évoluer le système politique vers une république plus moderne, la république de demain.
Depuis ce matin, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour se prononcer par référendum sur une réforme de la constitution. Des amendements qui permettront au président Ben Ali de prolonger son pouvoir. Le oui devrait largement l'emporter, un référendum boycotté par les partis d'opposition qui dénoncent le règne autoritaire du président tunisien.
Cette nouvelle constitution, validée avec un score de 99,52% des voix, supprime la limite des mandats présidentiels introduite en 1988. Elle allonge également l'âge maximal pour se porter candidat à 75 ans. En somme, c'est une réforme qui permet au chef de l'État d'être candidat à sa propre succession pour les échéances qui approchent. En plus, la révision introduit un bicamérisme en créant la Chambre des conseillers en même temps qu'elle élargit les prérogatives du Conseil constitutionnel en matière électorale. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Zine El Abidine Ben Ali. Lofti Hadji, journaliste tunisien, président de l'Union des journalistes à cette époque.
Il y avait trois demandes claires qui dérangeaient le régime. Une presse libre, c'est pourquoi j'ai moi-même pris part à la grève. J'étais à la tête du syndicat des journalistes tunisiens, le tout premier syndicat de journalistes indépendants. La liberté de représentation, parce que le régime refusait les associations et les partis indépendants. Et enfin, la relaxe des prisonniers politiques, il y en avait beaucoup en prison à ce moment-là.
En réalité, cette fois-ci, l'opposition s'organise. Elle fait taire ses divisions. Elle est décidée à faire connaître au monde la réalité du régime de Tunis. Samir Diallo, un des leaders du mouvement islamiste.
Unifier toute l'opposition était crucial dans les dernières années, parce que le régime n'était plus en mesure de maintenir la division, l'affaiblissement et le désaccord parmi les opposants.
Mais un autre événement totalement inattendu et a priori lointain va pourtant contrarier les projets des différents mouvements des droits de l'homme qui travaillaient à faire mentir la thèse de la menace islamiste brandie par le régime Ben Ali.
Un avion, lorsque 18 minutes plus tard, un second avion, vraisemblablement un Boeing 767 de la compagnie American Airlines, percutait de plein fouet et apparemment volontairement la deuxième tour. Pour les autorités américaines, la trajectoire parfaitement rectiligne et l'absence de SOS des deux avions accrédite la thèse de l'attentat terroriste. Un premier bilan fait état de 6 morts et de plus de 1000 blessés.
Cet attentat qui frappe New York, le plus audacieux et le plus meurtrier de l'histoire contemporaine, relance partout dans le monde la crainte de la menace islamiste. Le lendemain de cette tragédie, Ben Ali va parler du train fantôme, en faisant allusion à cette horde tapie dans l'ombre qui menace la paix dans le monde. À la faveur de cette psychose, Ben Ali retrouve de la crédibilité et de la grâce auprès des grands dirigeants qui le voient un peu comme un rempart à cette montée de l'intégrisme. Il peut à nouveau parader. Son pays affiche une relative stabilité, une prospérité économique que lui envient certains voisins. Il peut à nouveau mater sans faiblesse ces mouvements des droits de l'homme qui s'agitent dans son pays. C'est dans ces circonstances que le président Jacques Chirac se rend en visite officielle en Tunisie. Il arrive à Tunis dans la même période où l'activiste Radia Nasraoui entame une longue grève de la faim.
Le premier des droits de l'homme, c'est de manger, d'être soigné, de recevoir une éducation. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance.
La gaffe de Chirac en Tunisie au moment où l'avocate Radia Nasraoui est en grève de la faim pour défendre sa liberté et les droits de l'homme. Le président français qui est en visite d'État à Tunis n'a cessé de vanter l'évolution économique du pays, déclarant que le premier des droits de l'homme, c'était de manger, d'être soigné, d'être éduqué et d'avoir un toit. Le chef de l'État semblait ainsi faire passer au second plan les libertés publiques et les droits de l'homme qui sont souvent bafoués dans ce pays. Ces déclarations ont déclenché un tollé et en Tunisie et en France, parmi les associations de défense des droits de l'homme. Jacques Chirac, qui a tenu tout à l'heure une conférence de presse, a tenté de rattraper cette gaffe. Propos recueillis par Luc Lemonnier.
La France a une thèse depuis longtemps. C'est que les droits de l'homme sont indivisibles, qu'ils sont universels et indivisibles. C'est d'ailleurs une conviction partagée par l'ensemble européen. Alors, j'ajoute que naturellement, j'adhère sans réserve à cette conception et que dans cet esprit, j'attache la plus grande importance au respect des droits de l'homme. Alors, naturellement, il y a ensuite... apporter un jugement sur une politique économique, une politique sociale, etc. Mais les droits de l'homme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, de mon point de vue, discuter. Je le répète, toute autre appréciation relève soit d'une incompréhension de ce que j'ai pu dire, ou de ce que je pense surtout, et surtout quelque chose d'injuste.
Malgré la critique de la presse, Ben Ali bénéficie du soutien des grandes puissances. Il n'a pas de réel souci à se faire dans cette période où la menace est le fondamentalisme religieux. Il sera même reçu par le président George W. Bush à la Maison-Blanche en février 2004 pour parler des luttes contre le terrorisme et de la situation au Proche-Orient. Quelque temps avant la nouvelle élection présidentielle qu'il oppose cette fois-ci à trois adversaires, Mohamed Bouchia, Mohamed Ali Alouani et Mounir Beji, on a amendé la Constitution pour qu'il soit exempté de la condition de parrainage. Il faut dire qu'en août 2003, il a fait voter une loi modifiant le code électoral. Un texte qui interdit l'utilisation d'une radio ou d'une télévision privée ou émettant de l'étranger dans le but d'inciter à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat ou une liste de candidats. Ce qui, bien sûr, n'empêche pas le président d'être omniprésent dans les médias nationaux.
La Tunisie, dimanche, se déroule des élections législatives et présidentielles. Le président Ben Ali, au pouvoir depuis 1987, est une nouvelle fois candidat. L'opposition est peu représentée, d'autant qu'hier soir, l'un des candidats, le secrétaire général du PDP, le Parti démocratique progressiste, Ahmed Nejib Chebbi, a décidé de jeter l'éponge. Le PDP ne dispose d'aucun siège au Parlement et il avait d'ores et déjà appelé au boycott de l'élection présidentielle. Ahmed Nejib Chebbi explique les raisons qui l'ont poussé à retirer sa candidature.
Nos objectifs sont politiques, ils ne sont pas électoraux. Nous souhaitons mener une campagne active et nous étendre dans les régions. On a commencé par travailler, mais la première mesure au début de la campagne, ça a été de saisir notre manifeste électoral qui est encore saisi jusqu'à ce jour. Le ministère de l'Intérieur a essayé d'entrer dans des marchandages politiques avec nous. Nous avons refusé de changer notre manifeste et donc il est saisi illégalement sans aucune raison. De plus, ils arrivent à nous censurer non seulement sur les moyens d'information locaux, mais aussi à l'échelle internationale. Nous avons trouvé que tous les moyens dont on peut disposer pour mener une campagne politique étaient complètement bouchés, verrouillés. Nous avons fait un bilan. Rester dans cette campagne, pourquoi ? Être complice par le silence d'une usurpation de pouvoir ? On s'est dit non, nous allons rompre le silence et dire c'est une usurpation de pouvoir qui se fait par la force, une force froide, mais une force quand même, et nous refusons d'en être complice et d'en faire partie.
Ben Ali est à nouveau élu à l'issue de ce scrutin avec 94,49% des suffrages. Dès l'année suivante, il fait voter une loi qui accorde l'immunité permanente au chef de l'État pour tout acte lié à ses nombreuses obligations professionnelles. Et comme on sait si bien le faire sur le continent, dès 2006, de nombreuses organisations lancent un appel au président afin qu'il se présente pour les élections de 2009. Il est opposé cette fois-ci pour la course au cinquième mandat à Mohamed Bouchia, Ahmed Inoubli et Ahmed Brahim.
Dans ce bureau de vote qui n'est pas mixte au centre de Tunis, quartier d'El Hafsia, elles sont une dizaine à attendre leur tour et ont bien du mal à cacher le nom de leur candidat favori.
On est pour Ben Ali, on doit le dire, on est content de le dire.
Même dans le bureau de vote?
Bien sûr, on le dit, partout.
Ailleurs, à l'école de Babeshdid, une autre vieille femme édentée veut qu'on sache elle aussi qu'elle soutient le vainqueur. D'ailleurs, elle nous explique qu'elle vient d'envoyer plusieurs messages SMS pour qu'on sache de quel côté elle est et qu'on puisse l'aider, elle qui vit sur une terrasse.
Depuis 5 jours, moi je l'envoie. Vous avez répondu au SMS qui veut vous demander de soutenir Monsieur Ben Ali.
Oui, c'est Ben Ali, oui. Des milliers SMS, c'est pas une seule SMS, regarde. On regarde beaucoup, beaucoup. Comme ça, ils savent qu'il y a des gens qui l'aiment.
Ce dimanche après-midi, les électeurs ont défilé au compte-gouttes dans des bureaux parfois déserts. Une tendance générale, comme l'explique Mahmoud Ben Romdan, le directeur de campagne du candidat Ahmed Brahim.
Tous les échos que nous avons convergent pour indiquer que la participation est loin d'avoir été élevée, pour faire dans l'euphémisme, mais nous n'avons pas un nombre suffisant d'observateurs qui permettent d'établir cela avec rigueur.
La prudence est de mise après le discours menaçant du président samedi soir contre ceux qui critiqueraient le déroulement des opérations de vote sans fournir de preuves concrètes. Marie-Pierre Olfan, Tunis RFI.
Évidemment, dans de telles conditions, Ben Ali ne peut que remporter, encore une fois, le scrutin présidentiel.
Le candidat du parti d'opposition, Etajdid, a été crédité officiellement de moins de 2% des voix. Et malgré les pressions et les embûches durant toute cette campagne électorale, il veut croire à l'ouverture d'un dialogue au cours de ce prochain mandat. Ahmed Brahim.
Comme toujours, je suis optimiste. Il n'est pas trop tard pour ouvrir le pays au pluralisme, la société au pluralisme, faute de l'avoir ouvert dans les institutions. Je ne suis pas dans une ligne de rupture, dans une ligne de... Je suis toujours dans une ligne de dialogue.
De l'avis des Tunisiens, ce mandat servira à préparer la succession du chef de l'État en 2014. Comme d'autres, la journaliste Sihem Ben Sedrine s'interroge sur l'ambition de son épouse qui a tenu plusieurs meetings durant cette campagne.
C'est 2014 qu'on prépare. Je ne suis pas du tout d'avis avec ceux qui prétendent qu'elle va être le successeur de Ben Ali. Je ne pense pas cela du tout. Mais elle sera un élément très important du pouvoir. La réalité, c'est que nous sommes inquiets pour notre avenir. Nous ne le voyons pas. Rien n'est clair. Et surtout, rien n'est prévu pour une alternance pacifique.
Rien n'interdit, en tout cas en théorie, la candidature de Laila Ben Ali. C'est ce qu'explique Abdeljelil Messaoudi, un porte-parole du parti au pouvoir.
Laila, comme tout le monde, comme tous les citoyens, comme toutes les citoyennes, est une citoyenne tunisienne qui a des droits et des devoirs. Et qu'est-ce qui l'empêche demain, en tant que citoyenne, de se présenter aux élections ? Nous sommes dans un pays qui accorde un rôle essentiel à la femme.
Marie-Pierre Olfan, Tunis RFI.
Mais l'autre aspect de ce scrutin présidentiel qui suscite les commentaires, ou qui plutôt fait rire les observateurs, est le score du vainqueur de l'élection. Que s'est-il passé ?
Ben Ali fléchirait-il ? Le président tunisien est réélu, mais avec seulement 89,6% des suffrages. C'est la première fois qu'il est sous la barre des 90%, obtenu sans coup férir lors des quatre précédentes présidentielles en Tunisie, à comparer donc ce nouveau score avec les plus de 99% lors des trois premières élections, 94% pour la dernière en 2004. Reste l'essentiel pour celui qui préside la Tunisie depuis 22 ans, une victoire sans partage. Le premier candidat de l'opposition obtient en effet seulement 5% des voix. Sébastien Legénie était notre envoyé spécial pour ce scrutin auquel 85% des Tunisiens ont participé.
Lycée Bourguiba, à deux pas du QG de campagne de Ben Ali, l'ordre règne dans ce bureau de vote du centre-ville. Les électeurs prennent avec soin les bulletins des quatre candidats, rouge pour Ben Ali, bleu pour l'opposition. Ils passent tous à l'isoloir, derrière un rideau gris. Un observateur est là sur une chaise, il surveille les opérations. À la sortie, en revanche, on hésite rarement à révéler le nom de son candidat. Le président du bureau de vote ose sortir de son silence.
C'est quartier populaire, presque les gens illettrés, ils viennent ici pour faire leur droit. Et bien sûr, poussés par pas mal de choses. Ils sont poussés, même les vieilles qui viennent ici, ils ne savent rien, même de la liste. C'est une pièce de théâtre.
Son chef de bureau surgit soudain.
Hey, là, je suis avec vous. D'accord, voilà. Il m'a dit que rampe. Voilà, merci.
L'interview doit s'interrompre. À Tunis, Pierre Quintard, Sébastien Legénie, France Inter.
Encore une fois, Ben Ali a triomphé dans les urnes. Je veux que la Tunisie rejoigne le cortège des pays développés. C'est le nouvel objectif que se fixe le président dans ce qu'il présente comme son dernier mandat. Il faut dire que Ben Ali s'appuie sur les indicateurs de l'ONU qui placent son pays dans la catégorie des nations ayant un indice de développement humain plutôt bon. Il est à la 98e place devant l'Algérie, 104e, l'Égypte, 112e et le Maroc, 126e. Seulement, Zine El Abidine Ben Ali ne mesure pas l'impopularité de son régime dans le pays. Même si la police, les services de renseignement et autres corps de sécurité continuent de museler l'opposition, la colère gronde. La société civile s'organise. Notamment les mouvements des droits de l'homme, mais également la presse qui est chaque jour sanctionnée. Certains patrons des journaux n'hésitent plus à choisir la grève de la faim pour se faire entendre. Chebbi.
J'ai décidé d'entamer une grève de la faim en accord avec mes amis du journal et du PDP pour défendre l'existence de notre journal. Parce que le pouvoir, qui procède toujours par des moyens détournés, a décidé de suspendre l'impression du journal en instrumentalisant l'imprimeur qui a prétendu l'existence d'une panne qui nécessitait l'importation d'une pièce de rechange qui prendrait un temps assez long et qu'aucune autre imprimerie de la place n'a accepté d'imprimer notre journal. C'était une manière de nous dire que votre journal cesse de paraître sine die. Nous avons l'habitude de ces procédés. Vous savez, nous avons fait, Maya Jribi, la secrétaire générale, et moi-même, une grève de la faim d'un mois et demi pour défendre nos locaux. C'était contre le propriétaire qui voulait nous expulser de notre local central. Et en fait, c'est toujours une manipulation du pouvoir qui utilise des citoyens pour atteindre à la liberté de presse, aux militants des droits de l'homme, aux journalistes, etc.
Au-delà du président Ben Ali lui-même, c'est une autre personne qui suscite le plus de rejet. Leila Travelsi, sa femme, qui touche à tout, se mêle de tout et s'approprie ce qu'elle veut dans le pays. Pendant la campagne, elle a tellement été omniprésente que certains ont commencé à se poser la question de savoir si elle n'envisageait pas de remplacer son président de mari à la prochaine échéance.
À nous de soutenir les efforts de nos gouvernements et des composantes de nos sociétés civiles pour une stratégie arabe commune contre les manifestations de violence dans nos sociétés.
Leila Travelsi, Ben Ali est certainement l'être le plus détesté de la Tunisie à cette période. Sa famille, elle, fonctionne comme une véritable mafia. Elle n'hésite pas à confisquer les biens qui l'intéressent, à s'approprier tout ce qui peut leur apporter de l'argent. À elle et à ses frères. Même Souha Arafat, la veuve du leader palestinien qui vit en exil en Tunisie, n'est pas épargnée par cette prédation presque convulsive.
Vous voulez créer une école internationale à Tunis? Leila Ben Ali m'a dit non, on fait ça ensemble, d'accord. Je ne savais pas que Leila Ben Ali avait tous les moyens colossaux de construire une école. Elle a amené l'armée pour construire cette école.
Leila Travelsi Ben Ali va finir par faire chasser Souha, la veuve d'Arafat de la Tunisie.
Quand Leila Ben Ali m'a jeté de la Tunisie, elle a demandé à plusieurs pays occidentaux de me faire taire. Plusieurs pays occidentaux m'ont dit, ne dites pas un mot sur elle, parce qu'ils nous ont menacé de, si vous parlez, de ne pas qu'ils ne traitent pas avec le dossier du terrorisme.
Rien ne résiste à l'ambition de celle que l'on appelle désormais la régente de Carthage. Le mari Ben Ali, lui, manifeste un peu moins d'intérêt à la gestion au quotidien des affaires. Aucune réaction aux accusations et plaintes sur les agissements du clan Travelsi qui s'approprie l'essentiel de l'économie du pays. Shafi Saed, ancien ministre et biographe de Bourguiba.
Ben Ali,
Ben Ali vivait dans un monde très restreint. Sa préoccupation principale était son fils. Il a attendu de longues années qu'il arrive et il passait une grande part de son temps à jouer avec lui dans le palais, tandis que les dossiers d'État importants étaient abandonnés au Premier ministre et aux autres ministres. Nous commencions à avoir l'impression que le navire n'avait pas de capitaine. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à réaliser que le président Ben Ali allait sur sa fin.
En cette fin d'année 2010, le temps se couvre en Tunisie. Il règne une ambiance qui annonce la tempête. Mais des tempêtes, Ben Ali en a connu. Et celui qui se sait soutenu par les grandes puissances sait qu'il n'a rien à craindre. Il est l'un des remparts contre le radicalisme religieux qui menace la sécurité dans le monde. Mais les populations tunisiennes sont-elles prêtes encore une fois à courber l'échine malgré la crise et le chômage dont elles sont victimes? Rien n'est moins certain, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique, spéciale Zine El Abidine Ben Ali. Mais en attendant, vous pouvez évidemment, d'ores et déjà, réécouter cette émission sur le site du RFI, à la rubrique Les émissions, ou sur le site archivesdafrique.com, ou tout simplement sur votre portable, votre téléphone, en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Nous attendons également vos réactions, vos commentaires sur notre page Facebook, qui compte plus de 585 000 amis. La première sur notre antenne. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.